With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il y avait juste un militaire qui était là avec sa mitraillette. Il nous arrête et il nous dit on va où? Oh ben, on lui dit ben on va vers Dakar. Ben, il dit je monte, je réquisitionne ma place.
Mais non.
Il prend sa Kalachnikov et il s'assoit à côté de Mika alors qu'il n'y a pas de place. Mika il commence à lui parler. Et le gars il comprend que Mika va lui rentrer dans la tête. Et il lui fait tu ne le parles plus.
Oh,
toi tu te tais, personne ne parle ici.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-morts à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Il est reconnaissable à sa plume, telle la grue cendrée, grand oiseau atteignant des records d'altitude. Mais notre invité, lui, il survole le rap français, depuis l'époque où Marie n'était encore qu'un projet. Allez, je m'arrête là avec mes tentatives lyriques parce que j'ai un peu honte devant le très grand poète assis à nos côtés, notre invité Oxmo Puccino, légende du rap français. Il a participé à plus de 1000 concerts, collaboré avec les artistes les plus réputés et il multiplie les projets smart et variés. Par exemple, en ce moment, les mots d'Oxmo nous touchent et nous guident dans sa géniale rubrique chez Click. Il nous emmène en balade et nous raconte des histoires de quartier dans son excellent podcast chez Arte Radio. Aujourd'hui, il nous fait l'immense honneur de nous faire voyager. Et désolé pour les précédents invités, mais comme j'étais un peu gêné de le recevoir chez moi, aujourd'hui, on est dans le magnifique showroom de notre ami commun Amaury qui a permis cette rencontre, donc merci à lui. Mais avant qu'Oxmo nous raconte ses aventures, je dis bonjour à Marie.
Bonjour Maxime, bah tu t'es donné hein.
Ouais bah écoute, j'ai sorti ma plume, j'ai essayé mais bon ouais, voilà, j'ai pas le niveau mais on est pas mal hein, ici, on est...
Ah bah on est très bien, moi je suis très à l'aise.
Oxmo, on est mieux qu'à la maison, tu sais pas, mais là
on est pas mal, je confirme. Ouais,
merci beaucoup d'être avec nous. Alors déjà, pour que tu te sentes à l'aise, je voudrais que tu saches qu'on a un ami commun qui était le parrain de l'émission, donc le premier invité de l'émission, c'est Mathias Dandois.
Ah, Mathias!
Voilà.
Oui.
Vraiment, c'est un fou.
Le grand Mathias, le champion du monde.
Voilà.
Multiple champion du monde.
Et voilà, 9 fois champion.
À sa défense.
Et donc, c'était le premier invité de Tourista, c'est un très bon pote. Et quand je lui ai dit qu'on te recevait, il me dit, ah, mais attends, mais c'est mon poteau et tout.
Ah bah ouais, il a des miles à raconter, hein. C'est
et bah,
sûr.
Exactement. Ouais, il a pas mal voyagé, celui-là. Et donc, ouais, j'ai découvert que tu faisais du BMX aussi.
J'en fus,
voilà. Bon.
J'en fus. D'ailleurs, j'ai arrêté quand j'ai croisé Mathias, hein.
C'est
avant de parenthèse.
Ouais. C'est impressionnant.
Croisé quand j'ai, parce que, moi, ça faisait quelques années que je ratais tout.
Ouais.
Je l'ai vu arriver. En 2 heures, il faisait des trucs que tu mets 6 mois à pratiquer. Je me suis dit, ça n'a pas de sens.
Non, ça n'a pas de sens,
je vais m'arrêter, je vais le regarder.
Alors déjà, tu sais, on essaie de retrouver l'ambiance.
L'ambiance téléphone.
Ouais.
Téléphone
des années 80.
En fait, dans Tourista, on essaie de retrouver l'ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro, tu sais, où il y a plein de touristes autour d'une table, quand imagine-toi en Thaïlande, où il y a plein de gens qui se rencontrent, qui se connaissent pas, donc on voudrait, tu vois, où les gens se racontent des anecdotes de voyage.
Je vois, le soir après 2-3 cocktails.
Exactement. C'est ça qu'on veut. Et alors, quand...
Achille.
Et donc, normalement, ce qu'on demande aux gens, au début, c'est de se présenter en anglais comme si tu étais... entouré de touristes qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais en anglais? Est-ce que tu pourrais nous faire ça en quelques mots?
My name is Oxmo Puccino and I'm a poetizer. Why a poetizer? Because I take the life and I make a purpose about a vision of this life. Voilà. I propose, je ne sais pas si ça se dit, Fiongles.
Franchement, moi j'ai compris. Donc,
moi aussi.
Ouais, voilà, c'est, bon, plus important.
C'est déjà essentiel.
Everybody.
Bon, très bien. J'ai appris que tu savais parler, en tout cas que tu avais pris des cours de grec et de latin. Donc,
j'en ai pris.
Tu pourrais te présenter aussi ou c'est fini ça?
c'est jadis.
Le voyage, ça représente quoi dans ta vie? Tu pourrais nous dire ça en quelques mots?
Le voyage, pour moi, ça représente la quête. La quête, pourquoi? Parce que, quel que soit le voyage que tu effectues, tu reviens un peu différent, enrichi de tes rencontres, de tes expériences que tu n'aurais pas pu vivre de chez toi, et surtout avec un point de vue différent de chez toi. C'est-à-dire que tu prends de la distance Et c'est vrai que c'est en prenant de la distance que tu vois mieux les choses en large. Et donc, ça te donne un autre point de vue de là où tu habites. Et tu reviens avec, avec du recul. Tu reviens avec du recul. Voilà. Chose qui n'est pas possible quand tu ne voyages pas, parce que tu as tout le temps dans la tête dans le guidon et que tu ne peux vraiment pas te rendre compte de la situation que tu vis et que tu ressens et que tu subis quelquefois. Voilà. C'est-à-dire que tu peux te plaindre d'un climat, te retrouver dans un pays où c'est bien pire, où les gens s'acclimatent, et revenir chez toi et trouver ça cool au final.
Ouais, on a souvent eu ces retours-là, c'est des gens qui se sont mis à voyager, qui se sont dit « putain, je me sens chanceux d'être en France, d'avoir...
Oui. »
d'avoir...
Bah, c'est pour ça que ceux qui se plaignent, je les comprends s'ils n'ont pas voyagé. S'ils n'ont pas voyagé, ils peuvent pas saisir les avantages qu'il y a à vivre en France. Ouais, malheureusement, il faut voyager pour s'en rendre compte. Moi, c'est pour ça que je conseille à tous les jeunes, dès qu'ils le peuvent, de partir. De partir même tout seul, si c'est possible, pour se retrouver pour mieux avoir une idée précise d'où l'on vit. Voilà, comme je répète.
Eh bien, Oxmo, je trouve que c'est un excellent conseil, puisque c'est exactement celui que je donne aussi à tout le monde. Moi, mon premier voyage tout seul, ça m'a vraiment fait switcher le cerveau, quoi, parce que vraiment, tout m'angoissait, j'avais peur de croiser des gens, parler à des inconnus et tout. J'étais au Vietnam, moi, le premier. Toi, c'était quoi ton premier voyage toute seule ?
Bah, premier voyage toute seule, pareil, c'était en Amérique du Sud, mais pareil, voyage toute seule, 20 ans, je me barre en mode sac à dos. Ouais. Bah après, j'avais déjà voyagé un peu avant en Europe, mais c'était plus vacances, famille, tout ça. Et non, de me barrer vraiment toute seule, ouais, c'était à l'autre bout du monde, quoi. C'était cool.
C'est un voyage initiatique à tous les coups.
Ouais.
C'était quand, toi, ton premier voyage tout seul, disons ?
Moi, mon premier voyage tout seul, loin, c'était aux États-Unis, je dois avoir 19 ans.
Ouais.
Et c'est avec des potes qui on avait prévu de partir et qui, au dernier moment, ont changé d'avis. Et j'ai décidé de garder le même avis et je suis parti.
Voilà. Ah, donc c'était pas prévu, c'était pas allez, je vais partir tout voyager tout seul.
Non, tu l'as subi,
mais
ouais,
finalement.
Ouais. Et puis je suis parti, je me suis retrouvé tout seul. Je parlais pas très bien anglais. C'était à New York. Tu prends des bus au hasard, tu te retrouves, tu te perds. C'est fou, ouais, c'est fou.
Trop bien. Bon, on va continuer de parler de tout ça tout à l'heure, mais avant, Marie nous a préparé un petit quiz. C'est la spécialiste des quiz. Parfois, on apprend beaucoup de choses. Parfois, on n'apprend pas grand-chose. Je pense que là, elle s'est donnée aujourd'hui.
Là, c'est moite-moite. On va un peu apprendre des trucs et un peu pas apprendre grand-chose. On va faire un quiz du coup spécial, les rappeurs en vacances, les rappeurs au soleil. Alors forcément, j'en ai déjà parlé 150 fois dans le podcast, je suis très fan de PNL. Et donc, ils font des clips exceptionnels dans des lieux exceptionnels, et notamment en Namibie. Alors, petite anecdote, petite question sur la Namibie. Dans le nord-ouest, sur la côte atlantique, la côte est surnommée la côte des squelettes.
Ok.
Pourquoi, à votre avis ?
Est-ce que
la cause du désert ? À cause des requins ?
Non.
Parce qu'il y a des gens, ils meurent de soif et après il y a des...
Waouh, t'es allé loin.
Non, je sais pas, après il y a des cadavres et... Non, je sais pas, c'est un endroit.
Donc, ok, c'est vos...
Ah, je sais pas.
Alors,
c'est mon dernier mot.
C'est vos derniers mots, ok. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup de squelettes d'animaux, mais notamment aussi des épaves de navires échouées. Donc, on peut voir des épaves à moitié ensablées. Okay. Il faut savoir que la plus vieille épave sur cette côte date de 1530. Quand même vieux. Voilà, bah, j'ai dit qu'on apprenait des trucs.
Je me rends compte que c'était pas très très fun. Si c'était pas très un truc à voyager, que t'irais faire en voyage si c'était mon truc à moi, quoi.
Ah ouais,
ouais.
Ah,
ça a pas l'air très touristique. Très
beau. C'est méga beau. Hein.
Oui, bon. Mais si c'était des cadavres d'hommes, de personnes.
Bon, allez, c'est pas grave, on va partir sur des questions un peu plus.
Moi,
j'étais
dans les squelettes, dans les crânes, dans les ossements.
Valise, sac à dos, sac à roulettes avec ou sans étiquette, chacun son bagage quand on part en voyage. Mais dans la chanson Tonton du Bled du 113, avec quel bagage Rimka part-il en vax ? C'est pour info la première phrase qu'on entend dans la chanson.
Je prends mon sac à dos.
J'ai oublié, j'ai la console. Non, j'ai oublié.
Les cabas, ils sont trop lourds. C'est avec des cabas qu'ils mettent sur le toit de la voiture.
Très pratique, les cabas.
Oui, ouais. Ah bah ouais, très pratique pour voyager.
Peugeot 505.
Pour déménager aussi, moi, c'est mon. Pour déménager,
ouais,
des cabas, t'as plus besoin de carton, plus rien. Voilà, c'est mon petit tuyau. Ça serait, mais c'est pour l'autre podcast.
Podcast déménagement.
Pardon.
Troisième question pour le Marseillais de Jules, qui pour moi représente bien les vacances, le soleil. Quels sont les trois mots qui riment avec vacances ? Première proposition, rosé, jet ski, playa. Deuxième proposition, beauté, iced tea, te bois. Troisième proposition, goûter, Volvic, siesta.
Je pense à la deuxième, Ice Tea.
Beauté Ice Tea de bois, pour toi ?
Je sais pas, j'ai pas joué.
Il faut que ça reste dans le genre de Joule.
Ouais.
Moi, je dirais le premier, c'est quoi le premier ?
Rosé Jet Ski Playa.
Ah ouais,
Rosé Jet Ski Playa.
Ouais. Et oui, ah c'est ouais, Rosé Jet Ski Playa.
Évidemment.
C'est le nom de la chanson.
Si c'est
d'ailleurs.
Possible, Jet Ski T-Max.
Il est arrivé avec un T-Max, non, c'est pas ça, son dernier concert. Il atterrit avec un T-Max, un truc comme ça.
Certainement.
Ouais.
Incroyable. Je peux pas m'empêcher, je reparle de PNL, hein, voilà. Dans le clip de la chanson Je suis QLF, on voit Ademo et NOS au Mexique avec tous leurs copains. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Mais à un moment, ils font un truc, ils ont les pieds dans l'eau turquoise. Ils sont seuls sur une plage, mais ils font un truc super banal. Est-ce qu'ils jouent au rami ? Est-ce qu'ils mangent des tartines de Nutella ? Ou est-ce qu'ils lisent le journal ?
Wow. Il joue au rami, hein.
Il joue au rami.
Ouais.
Allez, vas-y, je suis Oxmo.
Et non, il mange des petites tartoches de Nutella.
Ah. C'est sûr que c'est du Nutella.
Je suis. Bah ouais, parce qu'il y a le, il y a la marque Nutella.
Carrément.
Ouais, dessus.
Faut que je revisionne. Faut que je revisionne.
Oh.
Bah dis donc.
Voilà, c'était le quiz de Marie.
C'était le moment pub.
Merci beaucoup. Très bien, on a appris des trucs un petit peu quand même. Bon, alors maintenant on va parler de tous tes voyages, mais est-ce qu'on commencerait pas par l'époque où Marie et moi, on n'était qu'un projet, c'est-à-dire au début quand...
La préhistoire.
Voilà, l'époque où il n'y avait pas Google Maps pour pouvoir voyager.
Il fallait des cartes.
Toi, tu as grandi à Paris.
Des cartes à déplier. Ouais, j'ai grandi à Paris.
Ouais. Tes premières aventures, c'était quoi ?
Mes premières aventures, c'était la Suisse. La Suisse.
Ah ouais ?
Je partais en Suisse souvent.
Okay.
Je partais en Suisse avec des potes souvent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des concerts qui ne se produiraient jamais en France.
Ah ok.
Tu vois ? C'est-à-dire que si tu voulais voir des groupes comme TLC, des rappeurs comme Eminem ou des choses comme ça qui n'allaient pas atterrir en France,
il
fallait aller en Suisse.
Wow.
Ouais. Et donc, ce qui fait que tu voyais des concerts incroyables.
Donc, tu as vu Eminem en Suisse ?
Non, pas Eminem, mais d'autres artistes en genre.
Ouais. Ah, ouais.
D'autres artistes lourds que tu peux pas. Et puis, en plus, avec une proximité parce que à l'époque, les grandes salles, c'était pas trop. Tu vois, c'est pas tous les artistes qui se produisaient dans les grandes salles.
Ouais.
Au mieux, à Paris, c'était la Cigale, tu vois. Et en Suisse, c'était dans des salles équivalentes. Donc, il y avait une proximité dont tu pouvais pas jouer en France, quoi. Ou même, quelquefois, les artistes, ils faisaient un concert dans une petite salle en Suisse pour faire après un zénith en France. Mmh. Et c'était mieux de les voir dans une petite salle, tu vois.
Ouais,
trop bien.
J'avais fait Justice, je me souviens, en 2008. À New York, dans une toute petite salle.
C'est incroyable.
Et après, je les ai vus dans les festoches. Ah,
c'est autre chose.
Ouais.
C'est autre chose.
Mais je me souviens, mais alors parlons de New York, justement. Je sais que j'ai entendu souvent dans tes interviews que ça part un peu sur des coups de tête à New York pour voir des concerts aussi. C'est une ville.
Pendant
que...
longtemps, ouais.
Ouais,
ça fait longtemps que j'y ai pu être parce que la musique, les concerts, les tournées, la paperasse. Et donc.
La paperasse, tu veux dire, c'est tes concerts, c'est la paperasse ?
L'administratif.
Ah oui, d'accord.
L'administratif. Et donc, à l'époque, j'y allais souvent. Ouais. J'y allais souvent parce que c'est là où il y avait la vibe. Quoi.
Ouais.
C'est comme si aujourd'hui, tu disais que tu allais à Atlanta pour chercher le truc.
Ouais.
Et donc, New York, il y avait ce mélange de cinématographique, musical et l'ambiance, tu vois, le mouvement, le speed qui était autre. Donc, tout ça, c'était très nourrissant, mais c'était à durée limitée parce qu'au bout d'un certain temps, tu craquais.
Ah ouais, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que... les gens sont dans un mouvement perpétuel.
Mmh.
C'est une ville qui ne dort pas.
Ouais.
Les gens n'ont pas le temps. Tu vois, si à Paris, tu crois que tu n'as pas le temps, là-bas, c'est encore pire.
Mmh.
Et il y a l'argent qui est prédominant.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est combien tu gagnes par heure, combien tu gagnes par jour, combien tu gagnes par an. C'est presque, tu te présentes comme ça.
Mmh.
Et ça en dit long sur ton statut social, sur tes activités, sur ta confiance en toi.
Mmh.
Et systématiquement, pour moi, c'est quelque chose qui t'éloigne d'une certaine humanité parce que t'es tout le temps dans la performance, tu vois. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, sauf que c'était localisé dans un lieu, tu vois, une ville.
D'accord.
Avec un poumon qui battait à plein régime.
Mais t'as quand même eu des grosses émotions quand même là-bas, parce que je me souviens d'un concert, enfin je me souviens pas, j'y étais pas, mais je viens d'une interview, tu parlais d'un concert où t'as vu Biggie qui arrivait.
Ouais, par exemple, ouais,
et
ça c'est mémorable.
T'avais dit, après je me souviens plus, ta phrase c'était « les portes se sont fermées », non c'est plus, c'est quoi, je sais plus.
Non, c'est que il a fait son morceau et les gens ils voulaient pas quitter la salle.
Ah oui, c'est ça.
Il ne voulait pas quitter la salle, il voulait que le public y revienne.
Ça devrait être.
J'imagine.
Alors, tu as un podcast, tu as fait un podcast pour Arte qui s'appelle Histoire de quartier.
Ouais.
Il y en a un qui m'a marqué, c'était Bunaimin qui expliquait qu'il est parti au Cambodge. Bon, ouais. En fait, il y a une... Je ne vais pas raconter de son aventure. Vous écouterez ces histoires de quartier. Mais à un moment, il explique. Donc, il part d'abord en Thaïlande. Voilà, ouais. Je ne vous raconterai pas ce qui se passe. Et je vous dirai ensuite, il part au Cambodge. Et il dit, il est parti, il ne savait pas qui il était. Et il est revenu, il savait.
C'est vrai.
Et ça, c'est...
C'est beau.
Ça, c'est touriste. Quoi.
Ça, c'est
propre des voyages.
Ouais, ouais. Est-ce que toi, il y a des voyages comme ça qui t'ont marqué ou qui t'ont fait évoluer, tu te souviens d'expériences comme ça?
Il y en a beaucoup. Moi, les voyages les plus marquants... C'est des voyages à l'émission UNICEF.
Ah oui, tu es ambassadeur, ouais.
C'est l'émission UNICEF, c'est-à-dire que on te propose de porter ta parole pour faire savoir la cause. Donc on décide d'un endroit où tu pourrais aller. Donc moi, j'ai pas eu le temps de faire les enfants soldats, les femmes mutilées de guerre. Donc avant ça, au nord du Niger, et c'était un voyage marquant. Parce que tu te retrouves dans des endroits où les gens sont totalement oubliés. C'est-à-dire qu'ils peuvent mourir là, ça dérangera pas grand monde parce qu'on les a oubliés, tu vois, dans des lieux où personne n'ira pour aucune raison, parce que ce n'est pas vivable, et en plus c'est extrêmement dangereux, tu vois. Donc nous on y allait avec une sécurité avec des gens incroyables. Il y avait ce personnage qui était un ancien commando qui avait qui avait tout vu, mais qui restait quelqu'un de généreux avec du cœur, tu vois. Et donc tu vas dans des endroits où il y a des gens qui sont bloqués, des réfugiés qui parlent ta langue maternelle. Tu vois, moi je parle bambara, ma mère, je suis né au Mali et là-bas on parle beaucoup bambara, soit soninké ou bambara ou malinké, mais en grande partie bambara. Et donc je me retrouve avec des jeunes gens de mon âge ou beaucoup moins, trentaine, vingtaine, qui sont dans des tentes de fortune, qui sont là depuis des mois et qui ne savent pas quand ils vont partir et qui n'ont que comme seul divertissement que leur portable et quelquefois une petite enceinte pour écouter de la musique. Voilà. Et c'était fou parce que toi tu vas pour faire savoir que c'est dur, mais tu ne sais pas si ça va changer pour eux. Toi tu rentres chez toi, tu vois. C'est des endroits qui te font te rendre compte de l'essentiel, si tu veux, parce que c'est le dénuement le plus total. C'est des gens qui n'ont plus de chez eux, qui n'ont aucune ressource. Tu sais, ils peuvent pas parler au futur, quoi.
Ouais.
Voilà. Et c'est des gens qui ont pas ton âge, mais beaucoup plus jeunes. Et ça, entre des histoires incroyables, des raisons pour lesquelles, suite auxquelles ils se sont retrouvés là, tu vois. Donc c'était un mélange de tragédie et de micro-espoir, tu vois. Et puis vivre ça, tu rentres pas chez toi pareil.
Ouais,
tu vois, tu vois pas la légèreté de la même façon. Mmh. Voilà, c'était ça. Et puis tu vois des familles, des jeunes filles dont la famille a disparu un soir, de la veille au soir, et qui se retrouvent là avec une tante ou quelqu'un qu'ils ont rencontré dans un autre camp de réfugiés. Tu vois, je sais pas, il y a pas de mots, quoi.
Oui.
Y a pas de mots. Tu le vis. Tu l'enregistres, tu prends comme leçon, tu vois. Heureusement, c'est filmé, il y a des photos, mais ce que tu gardes en toi va beaucoup plus loin que ça, quoi.
T'as vu des miracles là-bas ou... Parce qu'il y a un article des Inrock, apparemment, la catchline, c'est « J'ai vu des miracles au Niger » et j'avais pas l'abonnement payant des Inrock, alors j'ai pas su.
Là, si tu parles de miracles, moi, ce qui me revient tout de suite, c'est Haïti.
Ouais.
J'avais été à Haïti. Et j'avais été au service prénatal qui soignait des enfants nés prématurément.
Okay.
Et donc c'est là-bas que j'ai découvert la technique du pot à pot. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que les couveuses fonctionnaient pas là-bas parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, humide, climatiquement c'était compliqué donc. Et ils se sont rendus compte que en gardant les bébés au contact de leur mère contre la peau, ben, ils avaient des meilleurs résultats qu'en couveuse et qui sauvaient plus de vies.
Ah ouais. Ah,
donc tu te retrouves dans une maternité avec des enfants qui ont 7 à 8 mois et qui respirent la vie sur leur mère. Donc tu vois, c'est très touchant. Et puis tu te dis que c'est des enfants qui sont pas morts.
Ouais.
Tu vois, avec les médecins qui s'occupent d'eux. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est souvent c'est des femmes qui font 3 heures de route à pied pour arriver à l'hôpital, quoi. Donc ça donne une idée
Je vais en Russie, j'avais croisé je traversais le Transsibérien, je faisais 7 jours dans le train et j'essayais de voir un peu, enfin je faisais un projet vidéo autour de ça. Et donc je rencontrais les gens qui prenaient le train aussi. En fait, c'est le moyen de transport le moins cher du pays. Et j'ai croisé une grand-mère et sa fille qui prenaient 3 jours de train pour aller jusqu'à Moscou pour emmener la petite à l'hôpital, quoi. C'est là aussi tu vois un peu les différences de vie, quoi.
3 jours de train.
Ouais, 3 jours de train, ouais. C'est donc vraiment 72 heures, quoi. Pour,
d'accord.
Dans les trucs un petit peu joyeux, tu nous as fait une ode au road trip. Alors là, je parle d'une de tes chansons. Tu te souviens de l'ode au road trip que tu as écrite avec Olivia Ruiz?
Ah, on roule vers Amsterdam. Ouais. Ah ouais, mais bien sûr. Bah, disons que Amsterdam, c'était une destination pendant longtemps. Ouais. Une destination de détente, de relaxation, malgré le gris. Malgré l'accueil quelquefois un peu difficile, c'était un dépaysement. C'était qu'à 4 heures de route. Donc forcément, c'est des voyages qui marquent, surtout les raisons pour lesquelles tu y vas, font que c'est des voyages qui sont toujours drôles. Toujours drôles. Courts et toujours drôles, pour la plupart du temps. Ouais. Et donc, Amsterdam, les ponts, les canaux, le quartier rouge, les substances psychotropes, le côté melting pot, avec tout ce mélange de cultures qui est dû à leur histoire, la place de l'art, enfin tout ça, quoi. Tout ça. Qui va entre potes, franchement, c'est. Et puis il y a les plages que les gens connaissent peu, les parcs. Enfin, c'est toujours un beau voyage.
Ouais, j'ai eu quelques belles aventures là-bas.
Ouais, t'as déjà été à Amsterdam.
Ouais, je suis allé 2-3 fois.
On y va que pour ça.
Bon, alors ensuite, les tournées. Plus de 1000 concerts.
Ouais.
Plus de 1000 concerts, t'as fait tous les continents, t'as fait...
Non, j'ai pas fait l'Asie.
Ah ouais ?
Ouais, j'ai pas fait l'Asie, étonnamment, par souci d'organisation et de temps, parce que le truc, c'est que je suis toujours en train de faire quelque chose,
ouais.
Je suis sur plusieurs projets, ce qui fait que je suis pas aussi libre de mes mouvements que je le voudrais, que je le penserais, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses qui soit me font voyager pour le travail, soit me font rester à Paris pour le travail. Donc, quand j'ai un mouvement, il faut que ce soit prévu, quoi. Il faut que ce soit prévu.
T'as un souvenir de tournée
J'en ai trop.
T'en as trop.
Bah là, par exemple, je pense à... En 2008, j'étais parti pour une tournée en Afrique de l'Ouest avec mon équipe et Kim Chapiron.
Oui, réalisateur.
Donc, réalisateur, scénariste et patati patata. Et donc, on était à Bamako. Ouais, c'est ça. C'est qu'on avait fait le Burkina, on avait fait le Bénin, le Togo. On était arrivé à Bamako. Et à Bamako, on était censé prendre l'avion pour partir à Dakar, faire les derniers concerts. Et l'aéroport contacte l'aéroport pour s'organiser pour les billets. Et ils nous disent que l'aéroport il est fermé parce qu'ils refont la piste.
Ah bah oui.
Donc,
il y a pratique.
Aucun avion qui décolle et aucun qui n'atterrit vu qu'ils refont la piste. Nous on a un concert, tu vois. Donc on se dit comment on va faire. Donc comme on est avec des super régisseurs, Mika en tête, Mika Africa, c'est le régisseur Mika Africa, il trouve une solution, il loue deux petites Toyota, c'est des 6 places, tu vois, 6-7 places, solides, mais pas super confortables.
Ok.
Tu vois. Tes genoux, ils touchent ton pote qui est devant, il n'y a pas trop d'appui-tête.
Combien d'heures de route, là, par exemple?
Ouais. J'y arrive.
Ah, pardon, excuse-moi, je vais trop vite.
Sur le toit, il y avait un trou qui fait que s'il pleut, tu vois, ça part en douche. Et donc, on demande combien il y a de temps pour faire cette distance, quoi. Et c'est là qu'ils nous disent, il y a là pour 36 heures, je crois.
Ah.
Okay, un truc fou, hein, mais plus de 30 heures. 34 ou 36 heures. Et donc, on n'a pas le choix si on va faire le concert. Donc on démarre, on y va. Et puis sur la route, c'était incroyable. Tu vois, par exemple, je me rappelle, à un moment, on s'arrête pour se dégourdir les jambes, et je vais pour pisser, tu vois. Et je vois le sol qui n'est pas droit, tu vois, qui n'est pas lisse et droit. Et tu sais, c'est un peu comme une espèce de des cailloux trop bien rangés.
Oh, ok.
Et puis, au gré des quelques phares qui passent, ça fait un peu de lumière, un peu d'ombre, et je vois le sol qui bouge comme une vague. Là, je comprends pas.
Oh non,
les petits animaux. Parce qu'il n'y a pas de bruit, tu vois. Et là, je commence à regarder, je vois que c'est des milliers de crapauds. Ah, les... C'est des milliers, une vague de crapauds qui bougeaient comme ça, qui ondulaient, tu vois. Et donc, ça, c'est un souvenir que j'ai. Et puis, il y a ce souvenir que j'ai où on arrive à un barrage où il n'y avait pas de barrière. Il y avait juste un militaire qui était là avec sa mitraillette. Et il nous arrête. Et il nous dit, on va où ? On lui dit, ben on va vers Dakar. Ben, il dit, je monte, je réquisitionne ma place.
Mais non !
Il prend sa Kalachnikov et il s'assoit à côté de Mika alors qu'il n'y a pas de place.
Oh non !
Tu vois, à l'avant du truc. Et il commence à parler. Et Mika, il commence à lui parler, pour lui poser des questions, pour lui demander, enfin, tu vois, quoi. Et le gars, il comprend que Mika va lui rentrer dans la tête. Et il lui fait, tu ne me parles plus ! L'angoisse. Toi, tu te tais, personne ne parle ici.
Oh là là.
Tu vois l'ambiance dans la voiture.
Le voyage, il est plus que 32 heures.
Puis tu vois, une heure après, on est arrivé à un péage où ouais. Il est descendu, tu vois.
Okay.
Mais c'était pas super marrant quand il était là.
Ah, je pense que c'est la pire histoire de blablacar qu'on ait eue dans Tourista, là.
Ça, c'est un petit souvenir que j'ai. Puis on a fait les 34 heures, on est arrivé et on devait jouer 2-3 heures après, quoi. Tu vois. Wow. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le lieu du concert, on a déballé direct le matos, les instruments, même pas le temps de monter à l'hôtel. Enfin, c'était épique.
C'est déjà une anecdote de fou, hein.
Ah, celle-ci, elle est pépite.
Celle-ci, elle est pépite, ouais.
J'en ai une marrante aussi.
Ah, vas-y.
Une marrante, c'est... je commençais par une machine. Tu sais, j'avais acheté un multipiste.
Une machine pour faire quoi ?
Pour enregistrer des morceaux.
Ok,
donc c'est un multipiste que je venais d'acheter.
Ok.
Tu vois ? Et comme certaines choses que j'achète pour travailler, je regrette de l'avoir acheté. Et en plus, ce truc, il marche pas super bien.
T'es dans quel pays là ?
Je vais en Colombie, à Bogota.
D'accord. Là, t'achètes
pour un festival.
En Colombie ou t'achètes
juste
à Paris ?
Juste avant, j'achète à Paris.
D'accord, ok, pardon.
Et donc, j'emmène la machine et tout. J'arrive pas trop à bosser avec. Et puis un jour, on va visiter un endroit assez loin de Bogota. Et on nous avait raconté plein d'histoires sur les faux taxis qui peuvent t'emmener dans des coins bizarres et tout, tu vois. Et je suis avec Krim. Je suis avec le DJ Krim. Je suis avec... je sais pas si je suis encore avec Mika. Parce que Mika, c'est un régisseur qui me suit souvent. C'est mon régisseur, Mika Africa. C'est mon gars sûr, Mika Puccino. Et donc, on est dans cette forêt avec un... chauffeur de taxi qui tout d'un coup apparaissait hostile vu la situation, tu vois. Et donc Krim, il parle très bien italien, mais il se débrouille, il baragouine en espagnol. Et donc le chauffeur de taxi prend ce chemin qu'on n'a jamais pris pour rentrer. On est dans les bois,
wow.
En hauteur, tu sais, on commence à voir la brume, le soleil qui se couche et tout, et tous les deux, on n'est pas tranquille. Et Krim, il pose des questions, le mec, il répond, il comprend à moitié. Tu vois, là, un petit gars derrière sa voiture comme ça, qui a la tête qui dépasse à peine du volant, qui te regarde même pas quand tu rentres, tu vois. Avec la gueule, le smile à l'envers, tu vois. Et donc, on est en train de se poser des questions. Et là, juste là, à un moment, il y a toujours le taxi qui passe devant les apparatis.
Excellent.
Tu vois,
le temps d'atmosphère. Ça décompresse.
Et puis finalement, il descend dans la ville, ouais. Brusquement, parce qu'en fait, Bogota, c'est dans une espèce de vallée, tu es entouré de montagnes, ce qui fait que tu montes et tu descends très vite.
Okay.
Tu vois, donc tout d'un coup, t'es loin, et puis tout d'un coup, tu descends et t'es en ville tout de suite.
Rassurant.
Ouais. Et donc, le voyage s'est très bien passé. Et on arrive devant l'hôtel, et le maître de l'hôtel, la dame qui gère l'hôtel, et une dame du personnel qui nous attend devant l'hôtel, tu vois, apeurée, très touchée, très émue, et nous attend tous les trois devant l'hôtel. Il arrive et les gars, ils parlent italien, Et Crimi, il regarde, il fait « Que passa ?» Non, il dit « Qu'est-ce qui se passe en italien ?» Et l'autre, il fait « Esta passa una cosa grave. »
Oula.
Et donc, il fait « Donc, ben, il y a un voleur qui est rentré, il a volé quelque chose. » On ne sait pas quoi.
Oh putain, l'enregistreur.
Donc, on va regarder les caméras pour voir ce qui s'est passé.
Ah.
Et donc, tu vois que la dame qui gère l'hôtel, elle est là, en train de faire ses papiers. Elle se retourne pour ouvrir un truc, pour ouvrir l'armoire,
ouais,
pour prendre des papiers. Et tu vois un mec qui se glisse derrière elle, contre le mur, et qui rentre dans la porte ouverte. Et elle, juste quand elle pose le bureau, le mec, il a disparu. Deuxième caméra. Le mec, il est dans les couloirs, il ouvre une scène, ouvre une porte, ça marche pas. Deuxième porte, ça marche pas. Tout ça à la caméra, troisième porte, ça marche pas. Il arrive à ma chambre, hop, ça s'ouvre. Il regarde autour de lui, il se glisse, il disparaît, il ressort avec ma machine à la main.
Ben voilà. Claire, t'en voulais pas, de toute manière.
Et pareil, il se passe. Il se met contre le mur, il attend que la dame elle se retourne pour ramasser quelque chose et hop, il reglisse et il s'en va. Oh. Fin d'histoire.
Oh. Peut-être qu'il arrivera à mieux s'en servir que toi.
Un mal pour un bien. Ouais, voilà. Il la vendra pas cher.
Et c'est Daddy Yankee. C'est
il
ça
la vendra pas cher.
C'est quoi là ?
Daddy Yankee, c'est un chanteur d'Amérique du Sud. C'est pas grave. J'essaye de.
Non, mais peut-être c'est devenu une star de la musique grâce à toi.
Ça fait longtemps, dit Daddy Yankee. Hein.
Comment ?
Ça fait longtemps, Daddy Yankee.
Ouais, c'est vrai. C'est le premier nom qui m'est venu.
C'est un Colombien ?
Je crois pas.
Ok. Excellent, Marie.
Reggaeton, c'est ça. C'est reggaeton.
Ouais.
Reggaeton.
Tu pourrais nous parler un petit peu du Mali ? Parce que t'es né au Mali ?
Ouais.
T'es arrivé en France ?
J'ai arrivé en France très jeune. Et puis, je suis retourné au Mali très tard.
25 ans après, si j'ai bien lu.
25 ans après, mais j'y suis allé très souvent.
Ok.
Ouais, ça fait un moment que je n'y ai pas été parce que les conditions sanitaires faisant que. Et puis, la situation politique est un peu fragile, tu vois. Donc, mais sinon, j'y vais le plus souvent possible.
Ouais. La première fois que tu y es allé, c'était comment ?
La première fois que j'y suis retourné,
ouais,
bah, c'était fort parce que j'y suis allé sur un coup de tête. Pourquoi ? Parce que j'avais un concert qui était prévu là-bas en septembre et je voulais absolument y aller pour retrouver la famille, pour ne pas me retrouver à gérer trop de choses en même temps.
Okay.
Donc j'y ai été, c'était fort parce que moi je suis de Ségou. Donc quand t'atterris à Bamako, il faut que tu tapes 250 km en voiture ou en bus pour arriver chez ma famille qui habitait là-bas. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis arrivé chez ma grand-mère, qui repose en paix, j'ai reconnu tout de suite la maison familiale, la cour qui avait rétréci un peu, mais j'ai reconnu tout l'endroit.
Oh.
C'était fou comme les odeurs et les souvenirs subsistent dans l'inconscient.
Ah ouais, incroyable.
Beaucoup plus fortement qu'on ne le pense. Ouais. Et c'est ce qui m'a frappé, quoi. C'était comme dans mes souvenirs d'enfance. Mmh. Et donc c'était fou parce que le truc c'est que ma famille est là-bas en majorité. Et donc c'était étrange de voir toutes ces personnes que tu n'as jamais vues mais qui te ressemblent, avec qui tu as un air de famille. Parce que quand tes parents immigrent, ils immigrent tout seuls. Donc la famille c'est un concept distant. Mmh. Voilà. Et donc me retrouver au Mali là-bas, c'était une espèce de retrouvaille mémorielle. Spirituel, fortement, et familial avant tout.
T'aurais les types d'Oxmo Puccino si on veut aller découvrir le Mali ?
Commencer par Bamako, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Hein. Bamako est le coin. Bamako, Kati, un peu le long du fleuve Niger, mais pas trop vers le nord. Hein. Ouais. Mais il y a de quoi faire déjà.
T'as voyagé aussi pour tourner des clips.
Ouais.
Là, j'ai vu dernièrement, t'es allé en Ukraine avec Orelsan.
Ouais.
T'es allé avec M, c'était
à Dakar.
À Dakar, pardon.
Non, c'était au Sénégal, Dakar. C'était au Sénégal vers le Lac Rose, voilà, dans la région du Lac Rose pour tourner Bal de Bamako.
T'as une petite anecdote de tournage de clip dans un pays étranger
Sur le tournage avec Aurel.
J'ai réussi ma life. J'ai ça.
C'est marrant parce que à un moment, il a commencé à pleuvoir, mais d'une manière inattendue et insensée. C'est-à-dire que le moment où il pleut, si on l'a gardé dans le clip, c'est la vraie pluie. Et les éclairs sont les vrais éclairs.
Ah ouais,
ouais. Tu vois, c'est ça qui est fou. Le moment où il est debout sur la voiture, les éclairs et la pluie sont vrais.
Ah, trop bien.
C'est
magique, ça. Quand tu tournes un truc et que t'as des trucs comme ça qui arrivent, ça, les rushs, t'es content, quoi.
Ouais, ça, c'est fou.
T'as beaucoup écrit sur Paris aussi. Paris, c'est une ville très touristique.
Bah, oui.
Elle t'inspire ? Paris, ça t'inspire ?
À Paris, c'est fou. Paris, c'est complètement fou. Je veux dire, tu peux pas ne pas être inspiré par Paris. T'es trop inspiré par Paris, même. Moi, je voyage pour travailler vraiment. Parce que je prends trop sur Paris.
Ouais.
Tu prends trop d'informations, t'as trop de choses t'as trop de choses à faire, trop de choses à noter, trop de gens à voir que tu verras pas. T'as beaucoup moins de temps à Paris, qui fait que tu peux pas, vu que t'es toujours dans l'action, t'as pas vraiment le temps de développer quoi que ce soit en vérité à Paris. Mmh. Et donc moi, ce qui fait que pour écrire, je suis obligé de voyager, de faire des séminaires d'écriture, de prendre des endroits dans des villes où j'ai des amis qui habitent pas trop loin, pour pouvoir écrire, juste écrire. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et t'écris. Le fait que les gens savent que tu n'es pas sur Paris te dérange pas.
Ouais.
Mmh. Tu vois, ils t'appellent pas. Et du coup, tu peux te consacrer à ton travail toute la journée.
D'accord.
Et avancer comme il te faudrait 2 semaines à Paris, quoi.
Intéressant. Ça veut dire que le cactus de Sibérie, ton album, est-ce que tu l'as écrit en Sibérie ?
Non, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que, enfin, c'est une bonne remarque. C'est que jusqu'à la Voie Lactée, j'ai écrit tous mes albums dans le métro.
Ah ouais ?
Ouais. Tous mes albums dans le métro.
C'est-à-dire que t'y penses ?
Parce que, bah non, c'est un lieu où t'es tranquille dans le métro.
Ouais, ouais.
Les gens ne le prennent que pour se déplacer.
Enfin, toi, Oxmo dans le métro, peut-être que t'es pas trop tranquille, si ?
Bon, bah, casquette, crâne baissé, place des 6 au fond, tu vois.
Ok.
T'es tranquille. Et puis, ouais, parce que les gens ne prennent le métro que pour se déplacer. Ils ne prennent pas le métro pour plaisir. Mmh. Et ce qui fait qu'ils sont concentrés sur les problèmes et les raisons qui leur font prendre le métro, tu vois. Et donc, ça fait que c'est une espèce de lieu où tu peux être immobile avec énormément de mouvements autour de toi qui ne fait pas attention à ta personne. Donc, tu peux rester... c'est même trop court, quelquefois, les voyages dans le métro. Mais j'ai beaucoup, beaucoup écrit. J'ai écrit principalement dans le métro jusque-là.
Et quand tu voyages dans d'autres pays, tu vas tester les autres métros pour savoir si t'es plus inspiré. Tu vois, genre, Berlin, j'écris...
Non, mais ce que je fais dans les autres pays, c'est que je me lève tôt
ouais.
et que je prends des cafés... en terrasse, si c'est possible, ouais. et j'observe la ville.
Ah ouais.
Donc c'est un peu la même chose, quoi. Parce que tu prends des ressources que tu ne peux pas trouver ailleurs, surtout pas à Paris à la même heure. Et puis tu découvres la vie, tu vois. Moi, j'adore me lever, m'asseoir et regarder les gens partir au travail, aller à l'école. Je pense que c'est là qu'est la vraie vie. Voilà, le réveil de la ville.
En tout cas, le métro à Barcelone, par exemple, conseille pas pour écrire.
Ouais, non.
Parce que, bah, moi, ça m'avait frappé de fou parce que c'est vrai qu'à Paris, surtout le matin, les gens, c'est silencieux. Tu peux aller dans le métro, t'enlèves tes écouteurs, c'est le silence. Tout le monde qui est sur son tel et tout. À Barcelone, ça gueule de partout.
Ah ouais.
Tout le monde qui parle, tout le monde qui chatte, tout le monde qui prend le télé, tout le monde est au téléphone avec quelqu'un et parle fort. Et je me suis fait, j'ai eu un truc de.
Les restos en Espagne, c'est un truc de fou. Il faut des haut-parleurs pour parler. un mégaphone.
Bah, c'est pareil dans le métro.
Ouais, moi, à Berlin, je me souviens, je suis allé avec mon copain Théo, on part un week-end, et à Berlin, t'as pas de portique, t'as pas besoin de mettre le ticket, tu peux rentrer sur le quai direct et prendre le métro comme ça.
D'accord.
Enfin, en tout cas, et mon copain Théo est un peu un fraudeur du dimanche, quoi. Et il fait, c'est trop cool, on va pas prendre de ticket, on s'en fout et tout, machin. Moi, je déteste faire ça. Moi, ma mère, elle m'a trop éduqué attention, c'est pas bien. Ça, c'est
90 le ticket, moi, je le fraude.
genre, moi, j'ai encore ces trucs de, oh là là, c'est pas bien si on croise des contrôleurs et tout, c'est horrible. Et ben, Vlatipa, vraiment, on fait 2 stations, contrôleurs. Moi, je suis trop mal.
Ah, parce que t'as fraudé ?
Mais oui, j'ai fraudé, j'ai suivi. Et moi, je déteste avoir la police ou les gens qui tu sais, j'ai l'impression que je redeviens un enfant, quoi. Je perds tous mes moyens. Et Théo, en plus, ce con, il essaie de gratter. Je me souviens qu'il était là en mode mais on est des
Français,
touristes. Et tout.
C'était touriste, c'est parfait.
Oui, mais justement, il m'itoche. Non, on a perdu, Théo. On a perdu, on paye l'amende et puis c'est tout, quoi. Moi, j'étais. Et lui, il essayait de gratter.
C'est mieux, c'est mieux. Tu payes, puis c'est.
C'est très bien qu'on est en train de lui mentir et tout. Vraiment, des moments que je déteste. Moi, la Berlin, c'est mon souvenir de métro, il était pas ouf.
Je pourrais en parler des heures de frauder. Moi, j'ai des potes, c'est des maîtres fraudeurs incroyables. Moi, je paye pas le métro non plus.
Et tu t'es jamais fait gauler dans des pays étrangers et tout ?
Ah non, dans les pays étrangers, je paye.
Ouais.
Si je peux aller à l'endroit, c'est que
dans
je
les pays étrangers, ils traversent même pas au vert. Donc,
ah oui, c'est vrai qu'il y a.
Il y a beaucoup de pays en fait, ils traversent. Voilà.
Alors, sauf au Vietnam. Hein. Au Vietnam, les passages piétons. En fait, il faut les... t'as beaucoup de scooters, de voitures et tout ça, et genre, il n'y a pas de feu rouge, et tu dois t'avancer, et en fait, les scooters, ils ont l'habitude, ils se décalent par rapport à toi, mais vraiment, il faut s'engager. T'es déjà allé au Vietnam ou pas?
Non, jamais.
Bah, vraiment, moi, c'était un de mes premiers voyages, pareil, tout seul et tout, et je voyais, je dis, mais quand est-ce que je vais pas pouvoir passer? C'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est juste.
Et en fait, ils t'évitent, quoi.
Tu vois, les gens, ils y vont, et puis après, ouais, ça fait pop, pop, c'est.
Mais personne s'arrête. Mais moi, je me suis fait des vraies frayeurs au Vietnam. Déjà, c'est un truc que quand je voyage toute seule, c'est. Je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique et je me balade. Et là, je me suis rendu compte, mais dès le jour 1, je peux pas écouter ma musique parce qu'il y a trop de enfin, faut que j'entende s'il y a des voitures qui passent et tout. Et du coup, je me suis tout le temps baladée sans rien, juste en écoutant la ville. Mais c'est c'est hallucinant. Moi, je me suis toujours pas habituée. Enfin, au bout d'un mois là-bas, je me suis pas du tout habituée à ça. J'avais tout le temps peur. Genre, il y a bien quelqu'un qui va me laisser passer à un moment.
Putain, moi, c'est devenu un jeu, quoi. J'adorais parce que moi, j'ai un peu tendance à faire ça. Genre, je suis piéton, donc c'est moi qui ai la frio et tout. Je suis un peu ce genre de connard. Et là-bas, je trouve ça trop génial. Je me dis, oh là là, il vaut m'esquiver et tout, il faut y aller. Bon,
après, faites attention, il y a beaucoup
d'accidents. Oui, évidemment, mettez un casque quand vous traversez la route à pied au Vietnam, n'importe quoi. Le plus bel horizon de ta vie, tu te souviens? Est-ce qu'il y a un endroit où tu as vu une vue incroyable? J'essaie de mettre un peu de poésie.
C'est très beau. Ouais.
Ah, classique coucher de soleil à la mer, hein, tu sais. Ouais. Le soleil qui se couche en bord de mer. Là, je pense à Rio, Itacaré. Je pense au Pays Basque, tu vois, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, la Côte Basque, c'est merveilleux. Juste le soleil qui se couche, hein, moi ça suffit, hein. Il se couche, t'applaudis, t'as gagné. Après, j'aime beaucoup voir Paris de haut.
Ah ouais?
Ouais, Paris de haut.
Montmartre?
Tu vois, Paris des toits.
Ah ouais, ok.
Paris des toits. Et c'est génial quand tu connais Paris. Et surtout, tu redécouvres toujours Paris parce que tu es sur un toit qui te fait voir Paris sous un angle inconnu. Tu vois, que tu sois sur un toit dans le 18e, que tu sois sur un toit dans le 9e, dans le 13e, ça fait toujours un point de vue étonnant, quoi. Tu te retrouves avec la Défense à droite, la Tour Eiffel à gauche. Enfin, c'est moi, j'adore.
Tu fais un peu de parcours alors pour aller de toi en toi?
Bientôt.
On va recevoir des... Bientôt, ouais, je spoil un peu.
Les Flying Wings.
Tu te souviens d'une autre galère, un truc un peu marrant où tu retournerais pas ou je sais pas, un truc...
Je suis pas à l'aise avec les pays où tu es très surveillé.
Ok.
Tu vois. C'est-à-dire, je me rappelle, j'étais dans un pays où... il y a des pays où tu marches et bizarrement, le silence t'entoure. Tu vois, les gens ils s'arrêtent de parler quand t'arrives avec ton groupe, ça tourne la tête. Et puis à ce moment-là, j'ai un pote qui veut prendre une photo d'une super porte qu'il a vue.
Okay.
Il prend son téléphone et puis il prend la porte en photo. Et tout d'un coup, t'as un mec qui apparaît de nulle part et qui dit fasse la photo.
Oh là là.
Tu fais ok. Ouais. Ok. Après ça, tu rentres à l'hôtel, tu fumes une clope à la chambre. Et c'est interdit parce que machin, mais voilà, dehors aussi c'est interdit, hein, c'est compliqué. Et tu fumes ta clope et tout, tu ouvres la fenêtre, et tu vois le même mec dans la fenêtre de l'immeuble d'en face qui avait empêché ton pote de prendre sa photo. Et là tu te dis, ah ouais, là c'est un peu relou.
Mais c'était en fait. Où
ah, je peux pas le dire.
Ah ok.
Mais c'était un pays dans ce genre-là, quoi.
Ouais. Ok.
Et tu dis que ouais, c'est pas drôle tous les jours, quoi.
Ouais. Donc tu penses que c'est des flics en civil ou
oui
c'est...
bien sûr. Après tu vois le truc c'est que quand tu te déplaces dans certains endroits en tant qu'artiste tu représentes quelque chose qu'il faut surveiller auquel il faut faire attention de toute manière possible quoi qu'il ne t'arrive rien et que tu ne fasses rien de répréhensible 24 heures sur 24 c'est un peu compliqué. Quand tu le ressens et que tu le vois pas surtout.
Ça t'arrive de voyager comme enfin t'es toujours sur 1000 projets. Ça t'arrive de faire vraiment des moments où il n'y a pas de projet et tu pars en voyage juste pour inspiration.
Assez rarement.
Ouais. Assez rarement. Entre amis ou quoi.
Assez rarement. Je le fais de temps en temps. Ouais. Mais c'est assez rare. Mais c'est vrai que je le fais de temps en temps.
Et t'as une destination
J'en ai. J'ai l'Espagne. Barcelone, un peu plus bas que Barcelone, c'est Tarragone, Torre d'Embarra, j'aime beaucoup les petits patelins où c'est local, tu vois. J'adore aller au Maroc, à Casa, Tarazou, Tagadir, pour pêcher, parce que j'adore la pêche. J'ai des amis, très bons amis là-bas. Je pense, j'adore le sud de la France, à partir de Montpellier.
Montpellier.
À partir de Marseille.
À partir de Marseille.
Ouais. Parce qu'il y a avant Marseille et après Marseille, tu vois. Et moi, je suis très Marseille et toute la côte jusqu'à Barcelone.
Ok.
Voilà. J'adore aller traîner à 7, voir mon frérot, demi-portion et toute la clique. Tu vois, c'est toujours énorme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en France qu'on ne peut pas soupçonner de beauté. Il y a des endroits insoupçonnables. Tu sais, tu parlais de vue tout à l'heure. Moi, j'adore être dans la région d'Ariège.
Ouais.
Où tu as la vue des Pyrénées devant toi, comme ça. Mm. Où tu vois l'orage arriver. Enfin, c'est merveilleux. Des endroits qui sont peu empruntés. Mm. Tu vois, où ça n'a pas changé depuis 200 ans. Tu vois, il n'y a pas eu de nouvelle construction depuis 200 ans. Mm. Moi, j'adore ces endroits qui sont incarnés, où les gens prennent le temps de vivre, où Paris est une destination presque étrangère. Mm. Ça fait du bien.
Super. Eh bien, est-ce que tu aurais... Normalement, on a un vrai concours d'anecdotes où à chaque fois, on demande aux gens de préparer une petite anecdote pour qu'à la fin, on détermine la meilleure anecdote de voyage du monde. Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça qui te viendrait, un truc qui t'est arrivé de complètement fou dans ta vie ou...
Attends, laisse-moi 2-3 minutes que je réfléchisse. J'en ai une petite marrante.
Ah.
Donc, j'ai eu à un moment un super régisseur qui est aujourd'hui directeur technique internationalement reconnu, qui trouvait toujours une solution à tous les problèmes, et quelquefois même, il trouvait la solution avant que le problème n'arrive.
Waouh, ça c'est bien, un coup d'avance.
Ouais, tu vois, donc le problème n'avait pas existé. Mmh. Et un soir, comment on l'avait vendu ? On me fait, ouais, on a trouvé un régisseur, il est très 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 bon, j'espère que ça va bien se passer, tu sais, c'est le régisseur de Johnny.
Waouh.
Ah bon ? Et donc son truc, c'était le régisseur de Johnny. Et moi, je l'appelais colonel parce que c'était un exemple d'exactitude, de précision, enfin d'efficacité. Et donc, à un moment, j'ai dit, j'étais super fatigué et j'avais pas envie de prendre des selfies, de signer, parce que tu sais, tu te fais 2 heures de concert, tu vas voir quelquefois les fans après, et après t'as plus d'énergie, quoi. Mm. Et donc, j'ai dit, ouais, comment on fait pour que je puisse prendre le taxi sans qu'on
exfiltration, quoi.
Tu vois. Mm. Il me fait, bah écoute, je vais te sortir à la Johnny.
Génial.
Oh, wow. Je fais, ouais. Il me fait, ouais. Il me fait, écoute, quand je te dis go, tu te laisses faire et tu me laisses, tu suis. Okay. Je fais, ok. Donc, on se met à la porte de la loge. Il me fait, go. Et il me met en boule comme les gens du FBI.
Ok.
Tu sais, il mesure 30 cm de moins que moi. Donc, il me met en boule comme les gens du FBI. Il fait go et il court. Et on traverse la foule, on bouscule des fans. On arrive, la voiture, elle est ouverte. Et il me jette dedans. Il ferme la voiture, il tape sur le capot. Et j'étais déjà loin.
Waouh.
Et j'ai rien compris. J'étais en boule dans la voiture. J'étais en boule dans la voiture et je voyais les fans qui n'avaient rien compris. Et ça, c'était l'explication à la Johnny.
Excellent. Beaucoup d'adrénaline à ce moment-là.
Tu comprends rien. Tu cours, tu regardes pas où tu vas. Tu suis juste son bras. Et puis tout d'un coup, t'es à l'arrière d'une voiture.
Une cape ou même pas? T'as eu une cape dessus?
Non, il m'avait baissé la tête.
Ah, juste baissé la tête.
Il m'avait baissé la tête.
Genre, s'il vous plaît.
Ouais.
Ah, génial.
Il y a un problème. Poussez-vous. Ah.
Bah, moi, je pense que je vais utiliser la technique en concert pour aller tout devant. Je vais faire des exfiltrations de Johnny. Mais pour aller tout près dans les concerts.
Ça marche.
S'il vous plaît.
Ça marche. Personne ne comprend rien, ils font ce que tu dis parce que tu dois être. Enfin, il se passe quelque chose, quoi.
Ouais, les gens ils te laissent.
Ils savent pas.
Ils te créent l'espace.
Il va mourir, il a gagné l'auto, enfin, on sait pas. Ouais. We don't know.
Si tu veux, Maxime, je ferais ça aux vieilles charrues. Poussez-vous.
C'était dans quel pays, ça? T'as le droit de dire?
C'était. Ça devait être à Toulouse ou quelque chose comme ça.
À Toulouse. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas encore fait dans ta vie que tu rêves de faire? On demande aux gens leur bucket list, des trucs. Il y a un truc que tu. Un goal dans ta vie que tu voudrais atteindre que t'as pas encore fait?
J'aimerais beaucoup parcourir l'Asie.
Ah ouais?
Ouais, que je connais très mal. J'ai eu la chance d'aller en Corée récemment. Donc c'était une belle entrée en Asie. Et puis il y a ces pays nordiques où j'aimerais bien aller pêcher. Mm-hmm. Tu vois, Danemark, Finlande, dans les fjords, enfin tout ça. J'aimerais beaucoup.
C'est vrai qu'on va pas parler de la pêche, mais j'ai l'impression qu'il y a un sujet pêche. T'es très fan de pêche?
Attends. Là récemment, j'étais parti en voyage de pêche avec Bill François, qui est un personnage éloquent qui fait du seul en scène, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloquence de la sardine, et qui avait gagné un concours d'éloquence où j'étais le jury sur France 2. Et c'est un grand pêcheur. En plus d'être chercheur en vie sous-marine, tu vois, il fait des recherches sur les poissons, il fait des études très sérieuses. Il écrit pour des magazines de pêche et il voyage toute l'année. Et ça peut être la chasse aux silures à Paris, sur la Seine. Ça peut être les espadons au Costa Rica. Et là, récemment, on était à Tenerife pour pêcher le thon. Le thon géant, parce que c'est les thons qui font 400 kilos, 300-400 kilos.
Oh, belle bête.
C'est les thons, donc, parce que les Canaries sont sur un chemin que les thons prennent à partir d'une certaine maturité. Et donc, ce qui est incroyable, c'est donc là-bas, ce qui se passe, c'est que quand il y a des boules de poissons, comme les sardines ou d'autres petits poissons, des anchois, t'as les oiseaux qui le voient du ciel et ils le plongent. Les dauphins voient les oiseaux, ils vont vers la boule et les requins qui voient tout ça, pas les requins, les thons qui voient tout ça montent à la surface, tu vois. Et donc ils montent et ils fendent la boule de poisson. Et ça fait que tu te retrouves entouré de thons de entre 200 et 400 kilos qui font des sauts et qui retombent dans l'eau, tu vois. Et ça fait comme des mini-baleines. Oh. Et donc, tu es entouré de giclées, de vagues, de, merde, de poissons qui par dizaines autour de toi, tu vois. Et sur 2-3 kilomètres. Et avec les oiseaux, les dauphins, et ça fait une espèce de chaos dans lequel toi, tu jettes une sardine au bout d'un fil et t'espères que le thon va prendre ton appât pour une sardine qui a perdu le banc, tu vois. Et donc il y a ce moment incroyable, dire que t'es là, t'attends une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, t'as ce spectacle, quelquefois t'attrapes rien, et tout d'un coup t'as ce bruit comme une espèce de, imagine un filament qui part à 70 km heure, 80 km heure. Donc tout en écoutant. Avec quelquefois le fil qui commence à faire de la fumée tellement ça va vite. Et là, c'est l'état de guerre sur le bateau. Tout le monde a son poste, tout le monde s'attache. Celui qui va prendre la canne, il s'attache. C'est la folie. Et là, à partir de là, dès que le fil ralentit, là, c'est la guerre qui commence. Et là, tu moulines. Enfin, c'est tout un voyage. Tu moulines quand tu peux, quand le poisson ne bloque pas. Tu fais tourner le bateau dans la position qu'il faut. Et quelquefois, ça casse. Ouais. Mais la plupart du temps, tu arrives à ramener le poisson au bord. Et tu le détaches et tu le laisses partir. Parce que de toute façon, il est trop gros pour le bateau.
Ah
donc,
ouais.
Donc, tu n'as pas le choix. Voilà. Et ça peut durer une heure à tirer, une heure et demie. Il y en a qui prennent des heures selon la taille du poisson.
Et il peut survivre après le poisson, du coup?
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'il s'accroche...
Ouais, il peut survivre, bien sûr.
Eh ben, j'ai l'impression que là, on a ce qu'il faut. Hein.
On a quelque chose.
Oh, bah, franchement, merci. Ah, on a fait, ouais. On a l'épisode. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps.
Nous avoir fait
voyager.
Je répète, un plaisir.
Merci Marie pour ce quiz incroyable.
Mais de rien.
Merci à Maurice de nous avoir accueillis dans ton magnifique show.
Oui, merci à Maurice
de faire des magnifiques lunettes que je porte actuellement.
Oui.
Toi le meilleur. Et merci aux touristos et aux touristas de partager nos épisodes, de nous mettre de vous abonner au compte Instagram, de nous mettre des 5 étoiles sur les applis de podcast. Vous mettez des commentaires super, ça nous fait trop plaisir, ça nous fait trop du bien. On a des petites surprises là, parce que là c'est la fin de la saison, mais en fait c'est pas trop la fin de la saison.
Oui.
Il y a quelques épisodes qui devraient arriver encore. Donc voilà, pendant que vous serez en voyage, si vous partez cet été, on vous fera voyager avec Tourista. Si vous partez pas, on vous fera voyager aussi. Merci pour tout. À très vite. On vous embrasse. Merci Oxmo. Merci Marie.
Merci Maxime. Merci Amaury. Merci tout le monde. Merci le chien.
C'est fini. 1h03. Voilà, c'est parfait. Oh là là.
Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire.